Bonjour et bienvenue dans les Agités du FLE numéro 7. Les Agités du FLE, c'est le podcast Agito qui associe théorie et pratique de classe. Aujourd'hui, un numéro consacré aux jeux en classe de FLE et pour m'accompagner, on a Pascaline. Ça va Pascaline?
Oui, ça va bien Sébastien. Et toi?
Eh bien très bien, très bien. C'est parti pour la rentrée vraiment maintenant puisque au dernier numéro, j'étais encore pas vraiment dans les cours, mais là c'est reparti. Et puis pour ce numéro, on reçoit Aïdé Silva. Bonjour Aïdé.
Bonjour Aïdé.
Bonjour Sébastien, bonjour Pascaline.
Alors Pascaline, qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro?
Alors au sommaire de ce numéro, eh bien, ce sera le dossier le jeu en classe de langue qui sera suivi de notre rubrique pour aller plus loin dans laquelle on présentera des liens, des sites pour pouvoir passer à la pratique et pour pouvoir continuer en dehors de l'émission si on est intéressé.
Eh bien on passe tout de suite au dossier. Alors, pour ce dossier consacré au jeu, eh bien, on reçoit Aïdé Silva. Aïdé est auteure, elle est formatrice de formateurs, elle est aussi prof de FLE et elle est aussi blogueuse. Aïdé, est-ce que j'ai oublié des casquettes dans tout ça?
Je dirais plus que prof de FLE, j'enseigne encore un peu la langue, mais je fais surtout des cours de didactique du français langue étrangère.
D'accord. Et donc le blog, ça s'appelle le jeu en classe de langue sur le web pédagogique. Vous aurez les liens, bien sûr, dans les notes de l'émission et sur le site Agito. Et le livre, eh bien, il s'agit du jeu en classe de langue édité chez Clé International. Je me trompe pas?
Non.
Voilà, un livre très axé pratique et facile à lire.
Merci.
Alors pour ce dossier, on va essayer de comprendre eh bien les avantages, les limites du recours au jeu dans la classe de langue, et puis de voir comment on peut animer un jeu, comment on peut l'utiliser, comment on peut l'adapter. Et pour commencer, on va peut-être commencer par la base en te demandant, Aïdé, c'est quoi un jeu?
Eh bien, c'est une question que beaucoup de gens et beaucoup d'auteurs se posent, et c'est une question à laquelle je refuse généralement de répondre par une vraie réponse, par une définition.
Et donc, question
parce que il me semble que pour répondre à c'est quoi un jeu, en fait, il faudrait plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et il y a beaucoup de choses qu'on appelle jeu. Il n'y a pas une définition unique. Je dirais, par exemple, que dans le Littré, un dictionnaire français qui a une longue tradition, il y a 30 pages consacrées au jeu. Donc, plus que, comme certains auteurs l'ont fait, essayer de définir des critères spécifiques qui feraient que ceci est un jeu, ceci n'est pas un jeu. Je dirais que ce qui est intéressant pour ceux qui s'y intéressent d'un point de vue pédagogique, c'est de mettre au clair ce qu'ils cherchent dans ce jeu. Quels sont les éléments qui les ont portés à s'intéresser au jeu, et donc de travailler sur ce critère-là pour définir si effectivement ils peuvent être rattachés à la sphère du jeu et comment ils s'inscrivent ou se dégagent d'autres éléments.
D'accord. Et si on a du mal à définir ce qu'est un jeu ou si c'est compliqué, est-ce que le jeu est réservé à un certain public? Parce que souvent il est associé aux enfants. Est-ce que c'est réservé à certains publics? Est-ce qu'il y a des publics qui sont interdits de jeu?
Non. Je dirais aussi que très longtemps, et pour des raisons d'ailleurs historiques, le jeu a été associé à l'enfance. C'est une tradition qui nous vient surtout depuis Rousseau, le siècle des Lumières, ensuite le romantisme qui a beaucoup travaillé le lien jeu-enfance. Et à partir de ce moment-là, on a pensé que le jeu était réservé aux enfants, alors que si on s'intéresse au jeu avant cette époque-là, à un certain moment, parmi les Grecs par exemple, le jeu était réservé aux enfants certes, mais aussi aux dieux. Donc il y a eu variation. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une époque où on accepte que le jeu peut concerner tout le monde, aussi bien les enfants que les adultes, les femmes que les hommes, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Et pour compléter un peu la non-réponse de tout à l'heure, je dirais que finalement, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas une définition unique de jeu, mais que très souvent, il est associé par exemple au plaisir, alors qu'il y a des jeux qui ne sont pas du tout plaisants, qu'il est souvent associé au loisir, alors qu'on peut l'utiliser en classe ou pendant le travail, etc. Mais bon, on s'accorde à dire en général qu'il y a différents éléments qui peuvent faire penser qu'il y a jeu, mais qu'aujourd'hui, l'un des éléments les plus importants qui sont le plus mis en valeur, ce qui ne veut pas dire que c'est ça qui est vrai, mais en tout cas ce qui est reconnu aujourd'hui, c'est qu'il y a jeu quand on a envers l'action que l'on réalise une certaine attitude de détachement et d'implication à la fois qui permet de s'engager dans cette activité en général avec une certaine joie, une certaine motivation, un certain intérêt, enthousiasme, etc.
Est-ce que dès qu'une activité est ludique, en fait, elle appartient à la catégorie du jeu?
Ben, ça dépend. Dès qu'une activité est ludique, pourquoi on dit qu'elle est ludique? Je dirais que oui, dès qu'une activité est considérée ludique, elle appartient à la catégorie du jeu parce qu'on la fait rentrer avec cette étiquette dans la catégorie du jeu. Mais justement, il y a tellement de choses qu'on peut appeler jeu que, et c'est un des problèmes qui se pose au moment d'utiliser le jeu en classe, c'est que parfois, on pense qu'il suffit que nous, professeurs, on mette l'étiquette ludique sur quelque chose pour que les étudiants où les élèves, eux, perçoivent cela comme un jeu, alors que ce n'est pas juste une question de dénomination, mais c'est bien une question de perception de comment on s'engage dans cette activité. Et donc, on peut proposer quelque chose qui apparemment est ludique, par exemple, parce que au lieu de faire un examen classique, on l'a imprimé sur des feuilles de différentes couleurs et ça égaye la salle de classe, mais les étudiants, ils vont pas percevoir le foisonnement de couleurs comme quelque chose de ludique, alors que nous, on aura pu l'imaginer comme ça. Et ce qui est important, donc, ce n'est pas de dire que quelque chose est un jeu, mais de s'intéresser à ce qui va permettre à ceux qui s'engagent dans l'activité de percevoir cette activité comme ludique, si on admet que ce qui est intéressant, c'est que c'est une activité qui nous invite à y participer avec toute notre implication et en même temps une certaine distance qui nous permet de le prendre d'un cœur léger, mais avec beaucoup d'intérêt.
Et est-ce que tu conseilles alors, quand tu lances un jeu en classe, de l'annoncer, enfin, tu vois, est-ce que tu conseilles au prof de l'annoncer aux apprenants ou au contraire de juste lancer l'activité sans dire bah tiens maintenant on va faire
un jeu? C'est curieux parce que c'est une question qui revient souvent et je dirais que en général je conseille de ne pas dire que c'est un jeu parce que alors on se contente de penser que comme on a annoncé que c'est un jeu, ça y est, les gens vont penser que c'est un jeu. Et d'ailleurs quand on annonce que c'est un jeu, les apprenants, surtout les adultes, ont tendance à dresser une barrière parce que ils mettent derrière l'étiquette jeu ce que eux ils pensent à partir de ce mot-là et pas ce que le professeur a voulu y mettre. Alors plutôt que d'annoncer que c'est un jeu et puis de faire quelque chose dont les apprenants penseront peut-être que ce n'est pas un jeu, ils vont se sentir un peu trompés, un peu bernés par le professeur, je dirais plutôt proposer une activité qui pour nous professeurs possède certains traits qui nous semblent intéressants d'un point de vue pédagogique tirés du jeu, par exemple la motivation, le plaisir, l'intervention de plusieurs sens, le travail en équipe, etc. Si les étudiants ne pensent pas que c'est un jeu, mais s'impliquent, prennent plaisir, apprennent, sans se préoccuper de l'erreur, etc., de toute façon, ce sera bien. Si par contre, ils pensent que c'est un jeu, mais que c'est un jeu ennuyeux, qui n'a pas de sens, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont venus faire là, on a raté le coup. En général, je conseille de ne pas annoncer que c'est un jeu, sauf si c'est vraiment, par exemple, un jeu de société où il y aura une soirée jeu, où on va monter quelque chose, une opération très ouvertement ludique. Mais sinon, en général, et surtout quand on commence, quand c'est la première fois ou les premières fois que l'on introduit le jeu dans une classe, plutôt habituer les apprenants à travailler de manière parfois très différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ensuite, ils seront beaucoup plus enclins à accepter des choses différentes et à mettre dans le mot jeu des choses et qui sont d'accord avec ce que nous leur proposons plutôt que de les laisser laisser émerger leurs préjugés pas toujours favorables sur le jeu.
Ouais. Alors si je me mets un petit peu, tu vois, si je me fais un peu l'avocat du diable, je dirais que l'avantage d'annoncer que c'est un jeu, c'est que si tu veux, normalement, il y a des réflexes qui se passent. C'est-à-dire que dès que tu annonces que c'est un jeu, il y a l'explication des règles qui vient et des conditions de victoire ou de défaite. Et ça permet de clarifier parce que ça peut être difficile pour un prof de lancer un jeu sans dire que c'est un jeu, mais en même temps de faire passer les règles.
C'est vrai, ça dépend justement de quel jeu tu parles. Il y a des jeux un peu plus structurés que d'autres, et il y a des jeux, par exemple, qui ressemblent déjà à des jeux que les apprenants connaissent déjà. Par exemple, aux États-Unis, Jeopardize, tout le monde reconnaît tout de suite, ou en France, le jeu de cette famille, et on fait même l'économie de l'explication des règles. Parfois, si on dit qu'on va jouer aux cette famille, en France, presque tout le monde connaît les règles, etc. Donc oui, et c'est pour ça que je ne donnais pas non plus une réponse définitive. Il ne faut jamais annoncer un jeu. Dans certains cas, cela peut être utile, effectivement. Mais sinon, en général, peut-être le dire, mais sans insister trop et sans parier trop fortement sur le fait que juste parce qu'on a annoncé que c'est un jeu, ça y est, ça va marcher, les apprenants vont sourire et se lancer dans l'activité. Il faut être conscient que tout le monde n'est pas forcément ravi de s'engager dans un jeu. Chacun a une culture ludique personnelle, familiale, sociale, culturelle, qui fait que certains jeux sont admis ou pas, que si j'annonce dans certaines classes qu'on va jouer à des jeux de lettres, tous ceux qui n'aiment pas les jeux de lettres vont tout de suite se mettre à la défensive. Les ados, par exemple, oui, à eux, on peut leur annoncer un jeu si c'est un jeu de hasard, si c'est un jeu de cartes. Ils adorent, les jeunes ados, et j'ai constaté qu'ils adorent davantage les cartes que les autres tranches d'âge parce que c'est un jeu de hasard. Et si on dit que c'est un jeu de paris et que ils vont donc jouer à un jeu jusque-là un peu interdit pour eux, ça les excite, ça les motive, alors que ça peut être un jeu de cartes sur la grammaire. Mais le fait de parier et de parier sur des petites pierres de couleur qui seront des rubis, des émeraudes, des diamants, ça fait qu'on les fait entrer dans un univers qui ne leur était pas réservé jusqu'à là. Et là, ils s'engagent davantage. Donc c'est vrai que ça peut varier, mais en général, je dirais ne pas parier sur la seule dénomination, mais bien veiller à construire l'ensemble de la démarche pour garantir la réussite de l'activité.
Alors justement, tu as déjà en partie répondu à cette question en parlant et en présentant les avantages des jeux dans l'apprentissage. Est-ce qu'on pourrait récapituler ? Tu parlais d'excitation, tu parlais de plaisir, tu parlais de motivation. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres éléments que permet le jeu dans l'apprentissage ? Et puis est-ce qu'il y a aussi des inconvénients ou des situations où on ne peut pas l'utiliser, où il vaut mieux être prudent ?
Oui. Alors, je rappelle que finalement, ce qu'on appelle jeu est très variable et que donc les différents avantages que je vais citer ne concernent pas toutes les activités qu'on peut appeler jeu et qu'il faut bien voir que certaines vont avoir certains avantages ou inconvénients que d'autres n'auront pas. Mais sinon, en général, les activités qui appartiennent à l'univers ludique font souvent appel au sens. Il y a synesthésie, il y a un travail en parallèle des yeux, du toucher, de l'ouïe. Il y a aussi l'émotion qui apparaît. C'est un apprentissage beaucoup plus affectif, sans laisser de côté le cognitif. Il y a aussi le corps qui s'implique très souvent. Le simple fait d'agiter des dés, de les entendre, de les voir rouler. Et d'ailleurs, comme Sébastien l'a bien signalé, les jeux sont souvent bien structurés, donc il est facile de dire quelles sont les règles, le but à atteindre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et si on fait quelque chose qui n'est pas autorisé, il y a aussi des gages ou des pénalités qui sont déjà prévues. Les jeux sont souvent des jeux à plusieurs, même s'il y a des jeux individuels. Donc, les jeux permettent de mettre en œuvre des stratégies de socialisation. Ça crée souvent un climat particulier. Ce climat n'est pas automatiquement un climat de détente, mais très généralement, il l'est. Il y a une ambiance qui permet la confiance, qui permet de donner à l'échec un certain statut beaucoup plus léger que dans une classe. Et sinon, en général, donc, il y a émergence d'une certaine attitude envers la tâche qui est réalisée, qui est souvent caractérisée par un certain plaisir, un certain intérêt et parfois aussi par un enthousiasme. Donc ça permet en général d'accroître la motivation. Et je dirais à ce propos, pour terminer à répondre, de répondre à cette question, qu'on souligne souvent le plaisir que peuvent prendre les apprenants à jouer, mais qu'on ne parle pas tout le temps du plaisir qu'on peut prendre en tant qu'enseignant à créer des jeux, à animer des jeux, à observer ce qui se passe pendant le jeu. Donc je pense que le jeu, ça peut en général apporter du plaisir à tous les acteurs dans la salle de classe. Et pour nous enseignants, le jeu, sans être une panacée, nous permet d'élargir la panoplie de nos outils et donc d'enrichir le sac à malice, de pouvoir varier et ajuster selon nos publics. Maintenant, tout cela, j'ai souvent utilisé des modalisateurs en disant parfois ça peut, etc. Parce que bien sûr, il y a des inconvénients. Je dirais que le plus grand risque, c'est le risque d'idéalisation. Les très jeunes enseignants ou les enseignants déjà chevronnés, mais qui applique le jeu pour la première fois, peuvent avoir la tentation de mettre le jeu à toutes les sauces sans vraiment inclure le jeu dans une démarche pédagogique, sans analyser les objectifs qu'il vise. Et du coup, on tombe dans différents travers. Le premier, le plus classique, qui n'est pas en soi très grave, mais auquel il ne faudrait pas cantonner le jeu, c'est de penser que le jeu est un bouche-trou. Dire, bon, il me reste 3 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire un petit jeu. C'est pas plus mal, mais il n'y a pas que ça comme possibilité d'utilisation du jeu. Il faut aussi éviter de faire du jeu un dorage de pilules. Aux États-Unis, on dit aussi d'enrober le brocoli avec du chocolat. Il s'agit de ne pas cacher sous la forme d'un jeu qui en fait n'est pas très intéressant, des choses dont on sait que les apprenants ne sont pas très friands. Donc en général, ne pas tricher, disons, avec l'utilisation du jeu, ne pas penser que c'est juste parce que c'est un jeu que ça va fonctionner, mais se poser les bonnes questions au moment même de la préparation de l'activité, et s'assurer qu'il y a une bonne prise en main de l'activité ludique pour obtenir des bons résultats. Et je dirais aussi, parmi d'autres inconvénients possibles, mais ceux qui me semblent les plus importants, c'est que il faut quand même un certain caractère, parce que dans certains milieux, le fait de jouer en classe peut ne pas être très bien perçu institutionnellement. On peut penser que parce que vous jouez, vous n'êtes pas sérieux, ce qui est complètement faux, mais il y a ce préjugé-là. Et si on a bien préparé la démarche pédagogique, on peut justifier, on peut argumenter et montrer que ça s'inscrit dans une vraie démarche pédagogique. Mais sinon, ça risque d'être perçu comme une fausse sortie pour éviter d'affronter le problème de l'enseignement. Donc, je dirais en fait qu'il faut jouer très sérieusement pour que ça marche.
D'accord.
Oui. Ouais, ça diminue un peu cette perception un peu négative de la place du jeu dans la classe. Peut-être aussi grâce au renouveau du jeu de société. On voit que ça fleurit, il y a de plus en plus de salons, de plus en plus de boutiques, il y a les jeux, c'est incroyable le nombre de sorties qui est apparent, donc j'ai l'impression que ça...
C'est comme une démocratisation.
Ça se diffuse un peu. Une démocratisation du jeu. Ouais, moi, je jouais à des jeux très élitistes quand j'étais ado. Et puis on voit que ça se démocratise beaucoup.
Effectivement, il y a une vague de ludicisation, il y a une présence plus importante du jeu. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est un peu comme dans ces zones où la mer se rejoint le fleuve et il y a les eaux salées, les eaux douces. Dans certains milieux, effectivement, le jeu est déjà légitimé. Dans d'autres, et par exemple, moi je le vois, puisque j'ai formé des publics un peu de différents pays et dans différents milieux, il y a certains milieux institutionnels où le jeu reste encore relativement mal vu. Donc je dirais simplement, dans tous les cas, il faut savoir ce que l'on fait et pouvoir donner des arguments pédagogiques à son utilisation en classe. Et c'est vrai que plus les enseignants jeunes sont habitués à jouer et les apprenants aussi sont confrontés à des jeux, plus le recours au jeu semble légitime. Et en même temps, il devient un peu plus difficile parce que quand les apprenants ne sont pas habitués à jouer, par exemple les adultes d'un certain âge, dès qu'on leur propose n'importe quel jeu, même s'il est tout simple, ils sont excités par cette découverte, alors que les plus jeunes qui sont confrontés à plein de situations de jeu et beaucoup plus stimulantes, même parfois trop stimulantes, il est plus difficile de les attirer et de conserver leur attention avec un jeu qui ne serait pas parfaitement bien ficelé.
C'est vrai que moi, j'ai aussi l'impression, en regardant sur les médias sociaux, qu'on parle énormément d'éducation ludique, sans compter la partie techno... comment on dit d'ailleurs là, c'est pas... ludo-éducative, voilà. Toute la sphère ludo-éducative se développe énormément, notamment grâce aux technologies numériques. Donc en fait, ce qui manque après, c'est justement ce savoir-faire pédagogique, ce dont tu parlais, en fait. Les doutes finalement disparaissent lorsque l'on se rend compte que le jeu est mis au service aussi d'un objectif pédagogique, en fait, qu'il a des objectifs, qu'il sert des objectifs précis et qu'il n'est pas utilisé, comme tu le précisais tout à l'heure, seulement pour la mécanique ou pour dorer la pilule, comme j'ai vu, tu l'as dit dans une conférence, ou comme une cerise sur le gâteau.
Et d'ailleurs, je dirais, finalement, tout dépend aussi d'une certaine culture ludique collective. Parce que j'ai observé aussi que, par exemple, aux États-Unis, c'est là que Sébastien et moi, on s'est rencontrés, il y a une culture ludique ludo-éducative, d'utilisation du jeu dans la classe, qui est beaucoup plus ancienne qu'en France, par exemple. Mm-hmm. Et donc, les enseignants en formation ne découvrent pas le jeu quand ils arrivent dans la formation. Ils ont eux-mêmes suivi des cours où le jeu a été utilisé et donc ils ont déjà été apprenants par le jeu. Alors que dans certains pays, les enseignants aujourd'hui ont toujours l'impression d'être les premiers à proposer cela et de faire un peu figure de pionnier. Donc oui. Je pense que c'est important de rester conscient de cette idée de la culture ludique collective, de rester sensible aux caractéristiques spécifiques du public avec lequel on travaille, et donc de ne pas hésiter à s'inspirer d'expériences venues d'ailleurs, mais toujours en observant bien comment ça peut se passer dans son contexte particulier.
Alors, tu parlais de justification justement pédagogique, qu'il fallait expliquer, etc. On peut travailler n'importe quel objectif avec le jeu ?
Moi, je dirais que oui. Évidemment, il faut y réfléchir à l'avance, en amont. Mais si on reprend grosso modo les catégories, par exemple, du cadre européen commun de référence, juste comme un point de référence, justement, on peut travailler des savoirs, les savoirs déclaratifs, les conjugaisons, les savoirs historiques, etc. Je pense ici à un jeu que j'aime beaucoup et qui a en général beaucoup de succès aussi bien en classe que dans les goûters d'anniversaire, et qui s'appelle Timeline, la ligne du temps. Et dont j'ai découvert récemment une version qui me semble beaucoup plus adaptée à la classe. J'ai déjà testé, ça a très bien marché. Ça s'appelle Chrony Cards, comme les cartes du temps aussi, Chrony Cards. Et donc avec ça, on peut travailler, par exemple, il s'agit de reconstituer une ligne du temps et de placer les cartes à la bonne place, donc selon la date à laquelle est intervenu tel ou tel événement. On peut, on a travaillé avec mes étudiants l'histoire des femmes, et donc il faut parler de telle ou telle femme, qu'est-ce qu'elle a fait, à quelle époque ça se passait, etc. On travaille les connecteurs logiques, le passé composé, l'imparfait, la description, les métiers, etc. Évidemment, on travaille aussi la connaissance de l'histoire, les questions culturelles européennes, etc. Donc là, ce sont des savoirs référentiels et linguistiques. Mais il y a aussi des savoir-faire. Il y a un jeu, par exemple, aussi en anglais, qui s'appelle Stare, comme observe bien, et dans ce jeu, il s'agit de regarder une image pendant 20 secondes et ensuite on cache l'image et les autres, en fonction des chiffres annoncés par le dé, posent des questions. Et là, on peut travailler par exemple sur la question de savoir observer une image, comment en 20 secondes retenir l'essentiel, comment, si on joue par groupe, s'organiser pour répartir l'observation et avoir un travail plus efficace. Et donc, on peut apprendre à mettre en place des stratégies. Mais il y a aussi des savoir être. Il y a un autre jeu qui est sorti il y a à peu près 2 ans, qui a beaucoup de succès en général aussi, quand je le présente, les apprenants ou les invités et adorent. Ça s'appelle Concept, ça a été développé en Europe, je crois que c'est allemand. Je ne me souviens plus si c'est allemand ou français. Mais en tout cas, dans Concept, on a un plateau avec plein d'images et il faut que l'animateur, sans parler, arrive à faire deviner le mot ou la phrase qui lui ont été imposés par une carte en plaçant différents pions et en écoutant ce que les autres disent à partir de ce que lui a placé. Et donc, c'est au départ un peu difficile pour certaines personnes parce qu'il ne s'agit pas de faire deviner à partir de ce que moi, je pense que les autres devraient comprendre, mais que moi, j'ajuste ce que je dis, ou ce que je fais plutôt, en fonction de ce que les autres ont compris. Donc c'est un vrai jeu d'empathie, d'écoute, et de se mettre dans la peau des autres, et de se décentrer, et ça, c'est un savoir-être. Et finalement, il y a aussi des jeux qui permettent de travailler le savoir-apprendre. Un de mes jeux préférés s'appelle Eleusis. Il y a un article de Valette, V-A-L-E-T-E, qui est très intéressant à ce sujet. Il date de 1985, mais il continue d'être très intéressant. Dans ce jeu d'Eleusis, il y a un mystère à résoudre et il faut trouver la clé de ce mystère alors qu'on n'a aucun élément concret pour le résoudre. Et en fait, il s'agit moins de résoudre le mystère que de mettre en place des stratégies pour se donner des outils pour résoudre le mystère. Donc c'est un jeu qui consiste essentiellement à observer, à savoir formuler des hypothèses et à savoir valider ou non des hypothèses. Donc très rapidement, j'ai essayé de vous donner des exemples pour montrer que finalement, oui, le jeu permet d'aborder les différents types de savoir, savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre. Et je pense que oui, on peut pratiquement tout travailler. Ma seule réserve irait à l'évaluation, pas tous les types d'évaluation, mais l'évaluation normative et certificative, là où l'apprenant va recevoir une note. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger le côté affectif et le côté parfois incertain d'un jeu avec un examen, puisque il y aura une certaine contradiction, il y aura une injonction contradictoire. D'une part, il faut que tu te libères, que tu t'impliques, que tu oublies les problèmes de l'échec, et de l'autre côté, tu vas avoir une note dont dépend ton passage à l'année suivante. Et pour l'évaluation normative et certificative, je dirais, il vaut mieux ne pas utiliser le jeu.
Ouais, dans tous les exemples que tu as cités, ce sont des jeux, en tout cas, qui sont pas prévus pour la classe à la base. Hein. Et donc, tu les adaptes. C'est une démarche que tu recommandes, ça, de prendre un jeu qui existe et de l'adapter. Ou tu préfères qu'on invente nous-mêmes nos jeux, qu'est-ce qui est préférable?
C'est vrai que j'ai choisi surtout des jeux grand public. Il y a aussi des jeux pour la classe qui fonctionnent très bien. Et je pense que comme on l'a dit tout à l'heure, puisque le plus important, c'est d'avoir clairement en tête les objectifs pédagogiques. Oui, une adaptation est toujours nécessaire. Il est rare qu'on ait un groupe de 4 ou 6 apprenants de même niveau et qu'on ait une salle qui soit exactement adaptée à ce dont on a besoin. Donc, il faut prévoir des adaptations par rapport à la taille des cartes, par rapport au nombre d'apprenants qui ne joueront plus individuellement, mais par équipe, etc. Il y a aussi des jeux tout simples qui fonctionnent très bien. Le jeu de Jacques Addy, Simon Says, qui peut être joué avec n'importe quoi. On peut jouer au jeu du pendu, on peut jouer à ni oui ni non, on peut jouer à plein de jeux qui sont très très simples et qui n'exigent pas de vraie adaptation ni une longue préparation. Je dis longue préparation parce qu'il y a toujours au moins la préparation de penser pourquoi on le fait, comment on va l'inscrire dans la démarche. Mais sinon, il y a aussi des jeux faits pour la classe qui fonctionnent très bien.
D'accord. Et on risque pas un peu en adaptant le jeu de trop le dénaturer et qu'il fasse un flop, parce que Timeline, tu prenais l'exemple de Timeline, c'est très rigolo, hein. On place les cartes avant ou après certains événements selon la date qu'on pense leur attribuer. Mais ça peut se faire quasiment en silence. Donc là, j'imagine que tu mets des restrictions supplémentaires, des enjeux supplémentaires pour que les apprenants parlent. En utilisant le jeu, c'est ça ?
Oui et non. Pour le cas spécifique de Timeline, je dirais que j'ai joué à ce jeu dans beaucoup de contextes, pas seulement le contexte pédagogique. J'ai des enfants qui ne sont plus aussi jeunes, mais j'ai dû assister à plein de goûters d'anniversaire où je m'ennuyais et je mettais dans ma poche le Timeline et je le sortais dans la table autour de laquelle étaient les parents. En général, il n'y a pas eu une partie qui se soit déroulée en silence. Oui. Et les gens commencent très rapidement à dire « Mais non, tu vas pas mettre ça là, tu peux pas penser que Pink Floyd a chanté avant les Rolling Stones, etc. » Et du coup, il y a pratiquement toujours, je n'ai pas souvenir d'une seule fois où il n'y a pas eu discussion, échange, justement, comme ce n'est pas un jeu, c'est un jeu de compétition, mais ce n'est pas le caractère le plus important. Et donc, les gens se mettent à se souvenir de choses, à commenter, à aider l'autre, etc. C'est un jeu très convivial. Mais c'est vrai que, donc, à nouveau, démarche d'analyse pré-pédagogique, il faut imaginer comment ça va se passer, ne pas adapter en dénaturant complètement le jeu. Là, tu as tout à fait raison. Parce que, par exemple, j'ai vu beaucoup d'adaptations du Scrabble, mais où les joueurs n'ont pas de temps limite pour réfléchir. Alors, si on fait un Scrabble en classe et qu'en plus, c'est pas des lettres, mais des mots pour faire des propositions subordonnées complétives et qu'on a tout le temps du monde pour réfléchir, en 5 minutes, ça devient très ennuyeux pour tout le monde. Donc, il faut observer le jeu, il faut se doter d'outils pour analyser la mécanique du jeu et comprendre que dans tel jeu, c'est la vitesse qui compte, dans tel autre, c'est le hasard, et que dans tel autre, il va falloir veiller à, je sais pas, à l'inversion subite des chances pour essayer de garder ce qui fait du jeu une activité un peu inattendue et donc souvent motivante et ne pas, on en parlait avec Pascaline tout à l'heure, il y a des jeux qui fonctionnent très bien, mais c'est comme une charlotte au chocolat qui peut être délicieuse et vous cuisinez parfaitement la charlotte au chocolat, mais si vous l'offrez à votre tante diabétique et qu'elle fait un malaise, la faute n'est pas à la charlotte au chocolat. La faute est à celui qui n'a pas songé que ce n'était pas ce qui lui convenait. Et donc, je pense qu'il y a des jeux qui, dans certains contextes, vont très bien fonctionner et dans d'autres pas. Et si, puisque il faut pas qu'elle mange de sucre, je transforme cela par une charlotte aux courgettes, ce ne sera plus exactement le même résultat. Et du coup, il faut être honnête par rapport à ce que l'on fait et s'autoriser plein d'expériences. Je pense que oui, on peut jouer avec les jeux, on peut tester différentes adaptations, mais ne pas penser que la charlotte aux courgettes va automatiquement avoir le même résultat que la charlotte au chocolat. Et bien penser donc au public et aux ingrédients dans l'activité dont on veut qu'ils soient intéressants ou non pour le public auquel on s'adresse.
Voilà, tu nous donneras la recette de la charlotte aux courgettes.
On la mettra dans les pour aller plus loin. Oui, il y a toujours, en tout cas, je note au niveau du temps de préparation, lorsqu'on réemploie une ressource, il y a ce temps de réflexion à partir des objectifs, à partir aussi du public, en fait, de son public. Il y a toute cette préparation à inclure qui est vraiment nécessaire. On ne peut pas juste trouver comme ça un jeu et puis se dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais introduire ça dans le cours, ça va le dynamiser si je n'ai pas eu cette réflexion pédagogique auparavant.
Ça peut se faire assez rapidement, surtout quand on a l'habitude. Mais quand on n'a pas l'habitude, il vaut mieux prendre un peu plus de temps. Et je dis souvent aussi aux stagiaires en formation qu'il vaut mieux commencer par des petites touches. Si on trouve quelque chose qui nous intéresse, prévoir une activité assez courte pour tester comment ça marche, oui, plutôt que de se lancer sur une séquence de plusieurs heures où ça risque de faire flop. Donc, si je pense que ça peut marcher, mais je ne suis pas encore sûre, je fais rapidement une analyse. Tout professeur est habitué à juger d'un document authentique, à s'inspirer justement d'une activité déjà proposée ailleurs et à l'adapter et essayer des petites choses, et petit à petit, plus on se sent à l'aise, plus on se sentira à même d'improviser un peu. Je vous dirais, moi, ça fait maintenant, je pense, à peu près 25 ans que je joue en classe. Il m'arrive encore de me tromper et de me dire, ah, c'est pas ça, il vaut mieux que je change d'activité là. Mais j'ai toujours prévu quelque chose qui me permet de revenir dans quelque chose de plus classique, le temps que je trouve le moyen d'introduire le jeu.
Alors justement, tu en as parlé, tu disais on peut pratiquement utiliser le jeu pour n'importe quel objectif, hein, et dans presque toutes les situations, si ce n'est l'évaluation sommative, l'évaluation certifiante. Donc j'imagine qu'on peut utiliser le jeu dans n'importe quelle phase d'un cours, c'est-à-dire soit pour une mise en route, pour de la découverte, mais aussi bien pour de la systématisation, ou alors pour un réemploi, un réinvestissement des savoirs, hein. Tu parlais aussi de compétences et de savoir-faire tout à l'heure.
Oui, j'ai pris donc les types de savoirs pour illustrer la diversité des objectifs, mais on peut prendre aussi bien sûr les différentes phases d'une séquence de cours, on peut prendre différents publics, etc. Je pense que oui, le jeu peut s'utiliser dans n'importe quel moment, à n'importe quel moment du cours, juste en modifiant les paramètres pour que ça convienne. Je voudrais là vous donner un exemple pratique et vous raconter une petite anecdote. L'un des livres préféré dans ma bibliothèque, c'est une encyclopédie des jeux de 1867 que j'ai trouvé dans une bouquinerie que j'ai acheté, et un de mes moments préférés dans ma vie professionnelle a été de m'installer dans le jardin et de parcourir l'encyclopédie de jeux de 1867 à la recherche d'idées. Donc je notais au fur et à mesure des idées qui me semblaient intéressantes et que je voulais tester. J'ai trouvé à cette occasion un jeu qui s'appelle le jeu de la peur. Dans le jeu de la peur, il s'agit d'avoir un jeu de cartes. Dans le jeu classique, c'est un jeu de cartes classique aussi. Et donc, on attribue à certaines cartes la valeur de la peur. Donc, on va dire, toutes les reines vont être les figures de la peur. Et du coup, les joueurs retournent au fur et à mesure, à tour de rôle, les cartes. Et celui qui tombe sur une reine a un gage. Alors, j'ai trouvé ce jeu intéressant. Je l'ai adapté pour différents objectifs. Et j'ai, par exemple, un jeu qui consiste à faire un travail sur les biographies de personnages célèbres où on retourne au fur et à mesure des cartes. Et donc, on dit, ah oui, je le reconnais, c'est Victor Hugo, il a écrit Les Misérables. Ah oui, elle, c'est Elisabeth, reine d'Angleterre, qui a fait ceci ou cela. Et donc, on retourne les cartes, mais il y a caché parmi toutes les cartes, il y a des fantômes ou des zombies ou des monstres. Et quand on tombe sur une carte peur qui est représentée par ces personnages-là, il y a un petit gage qui est là. Donc il faut traverser la salle de classe en marchant comme la reine d'Angleterre ou mimer Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, etc. Donc ce jeu de la peur, la mécanique est très simple. Il faut avoir un corpus de cartes dont certaines vont impliquer un gage. Maintenant, si on travaille avec les personnages historiques, ça peut permettre de mettre en route la question du récit au passé, parce que les apprenants n'ont jamais encore vu le récit au passé, mais quand ils vont être confrontés au besoin de dire que tel personnage a fait ceci ou cela, ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin d'un certain temps verbal. On pourra le noter au fur et à mesure, le dire et le noter, et ça va constituer un corpus à partir duquel ils vont ensuite faire une conceptualisation. On peut aussi avoir choisi des cartes qui contiennent un certain type de verbes, par exemple tous les verbes qui utilisent l'auxiliaire être, et donc on va discuter à chaque fois ce verbe, pourquoi est-ce qu'il utilise être et avoir, et dans ce cas-là on travaille plus la conceptualisation. Évidemment, le même jeu fonctionne si ce qu'on veut c'est faire de la systématisation du récit au passé, et si les étudiants eux-mêmes ont construit les cartes, ont rédigé les cartes et ensuite ils jouent, c'est du réinvestissement. Donc le même jeu à différents moments et selon la dynamique d'animation pourra convenir aux différents moments d'une séquence de cours.
Ouais, mais il y a souvent des questions qui reviennent chez les profs à propos des difficultés qu'il peut y avoir à préparer un jeu, et notamment au niveau des instructions, donc quelles consignes donner quand tu lances un jeu, et aussi au niveau du matériel. Est-ce que tu aurais des petits trucs de tirer de ton expérience sur comment faire passer simplement une consigne pour un jeu plus ou moins complexe? Et aussi sur le matériel à utiliser.
Tu as tout à fait raison, Sébastien, de parler de cela, parce que au moment des stages de formation, je constate que autant les enseignants sont créatifs et pleins d'idées, autant ils ont parfois du mal à faire passer clairement une consigne de jeu. Les consignes de jeu sont souvent constituées de différentes étapes, et je pense que une des premières tentations à éviter, c'est de vouloir expliquer toute la consigne d'un seul coup, surtout si elle est longue. Je pense qu'il vaut mieux, en général, aller petit à petit en donnant des démonstrations, en faisant éventuellement des parties à blanc, en donnant des exemples pour s'assurer qu'ils ont bien compris, et pas juste en demandant « vous avez compris », mais en demandant de donner des exemples, de faire ce que la consigne demande de faire, etc. C'est vrai que cela demande un peu plus de temps dans la passation de la consigne, mais ça permet de gagner beaucoup de temps ensuite au moment de réaliser l'activité. Et quand une consigne de jeu a été bien comprise, on peut la réutiliser à d'autres occasions avec d'autres contenus. Il suffit d'annoncer le type de jeu pour que les apprenants sachent déjà à quoi il va falloir, comment il va falloir travailler. Et sinon, si c'est une consigne particulièrement longue, ce n'est pas inutile d'avoir une sorte de rappel de la consigne, les bases de la consigne écrite. Et ça permet de consulter, parce qu'il faut quand même laisser les apprenants s'approprier le jeu, et l'enseignant ne peut pas être partout pour clarifier pour tout le monde pendant le jeu, et c'est bien d'avoir une référence écrite des règles du jeu. Donc ce serait essentiellement ça, et s'assurer vraiment que c'est bien dosé pour que ce soit bien compris. Pour le matériel, c'est aussi une préoccupation récurrente, surtout quand c'est un matériel qu'on a fabriqué avec beaucoup d'amour, beaucoup d'abnégation et en faisant parfois des dépenses. Et donc, il est important de prévoir du matériel qui peut être fabriqué à nouveau. Donc, moi, je conseille toujours le support informatique. Donc, si jamais une planche est perdue, on peut la réimprimer, etc. Et de préférence, surtout quand c'est beaucoup de matériel, prévoir à l'intérieur de la dynamique du jeu qu'il y a quelqu'un qui distribue le matériel, et il y a quelqu'un qui ramasse et vérifie le matériel et le range à nouveau. Donc intégrer la gestion du matériel dans l'activité pour être sûr qu'on pourra rejouer convenablement toutes les fois qu'il sera nécessaire.
Ouais, parce que quand on s'était vu en formation, t'étais arrivé quasiment avec une valise de matériel. T'avais des petits jouets, tout un tas de trucs qui servaient tout au long de la journée.
C'est sûr que le jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait appel au sens, mais ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, il y a des applications qui permettent de lancer des dés virtuels, mais je les utilise peu parce que finalement, ça n'a pas beaucoup. Si je lance un dé sur mon téléphone, pour les apprenants, c'est comme si je choisissais au hasard moins un chiffre. Alors que prendre un dé, surtout si c'est un grand dé en mousse de différentes couleurs qui a 20 faces, etc., prendre un dé, lancer, le voir tomber, rouler, etc., et il y a un côté rituel dans le jeu et qui est aussi important. Et aux États-Unis aussi, j'ai acheté, il faudra que je parle d'autres pays, mais c'est l'expérience qui me vient le plus rapidement à l'esprit quand je parle avec toi, Sébastien, mais j'avais acheté une boîte à sons, une petite boîte rouge qui contient une vingtaine de sons, des cris, des tambours, etc. En classe, à l'université, je l'utilise régulièrement, mes étudiants adorent, pour interrompre une activité, parfois il y a un roulement de tambour, un cri, une trompette, etc. Quand ils se trompent au tableau, il y a le bruit d'un verre qui se casse. Si c'est une grosse erreur, il y a un coup de feu et puis je fais semblant de tomber tellement je suis effrayée de l'erreur qu'ils viennent de faire, etc. Donc on peut, les accessoires permettent de mettre en scène et de créer un certain climat qui favorise justement cette implication un peu amusée mais toujours sérieuse, parce qu'on travaille sur des trucs très sérieux et on reste toujours très, très systématique. Mais je pense qu'effectivement, les accessoires sont importants, mais c'est vrai, ça coûte de l'argent, il faut les ranger, il faut vérifier qu'ils ne soient pas perdus, que la pile fonctionne, etc. Donc bon, ça demande un peu plus de soins, mais bon, ça arrive aussi avec les photocopies qu'il faut ranger ou avec le magnétophone. Pour ceux qui n'ont plus de magnétophone, ils ont de la chance. Mais sinon, en général, bon, c'est vrai que encore aujourd'hui, je me balade souvent avec une petite valise derrière moi.
Ouais, puis t'allais même encore plus loin parce que tu prévoyais carrément des cadeaux pour les vainqueurs. Alors moi j'étais tellement nul que j'ai rien gagné, mais il y avait plein, t'avais donné plein de petits cadeaux à ceux qui gagnaient certains jeux, quoi.
Oui, bon, j'ai par exemple, il faut pas que je le dise comme ça, donc il faudra que ça reste confidentiel. Mais quand on va dans les magasins de bricolage, on a des petites fleurs en tissu qui se vendent à la douzaine ou à la centaine. Moi j'achète un gros sac, je ne sais pas, ici c'est pas très très cher. Mais je dirais un sac de 100 petites fleurs en papier doit me coûter 1 euro. Et donc ça me coûte 1 centime d'euro de donner à quelqu'un une petite fleur. Et je suis allée à Liège cet été au congrès de professeurs de la FIPF. J'ai retrouvé une collègue qui avait participé à un de mes stages en 2002, donc ça fait 14 ans, et elle avait pensé à porter avec elle la fleur en tissu qu'elle avait gagnée il y a 14 ans. Donc,
je croyais qu'elle t'avait fait une commande de fleurs en tissu.
Non, non, elle gardait toujours, elle porte sur elle sa petite fleur et elle me la montrait. Donc, c'était une grande joie. C'est quelque chose qui coûte pas très cher, mais d'un point de vue symbolique, le fait d'avoir un petit bouquet de fleurs ou de repartir de la salle de classe avec une petite fleur à la boutonnière, ça crée une certaine ambiance aussi qui est très favorable. On n'est pas obligé de donner des récompenses très, très compliquées. Et je suis personnellement un peu réticente par rapport à tout ce qui est bonbons, aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants, ou argent, parce que j'ai entendu aussi des profs qui font le gage, c'est payé tant. Je trouve que ça, c'est délicat. Mais sinon, on trouve très facilement des choses pas très chères. Des petites tours Eiffel, j'en ai acheté à 5 centimes d'euros, des trucs comme ça. Des toutes petites qu'on peut mettre dans son porte-monnaie, mais qui donnent l'impression quand même d'avoir gagné quelque chose en lien avec le français et qui font plaisir. En tout cas, les participants sont toujours ravis de les recevoir.
Oui, j'aime bien cette idée parce que je pense qu'il y a pas mal de profs qui théâtralisent aussi et qui imitent, voilà. Qui imitent des sons, qui font de la gestuelle ou baguette magique, effectivement, transformation quand l'étudiant répond à côté et que c'était une évidence. Et je me disais que peut-être, à défaut d'acheter tout ce matériel, parce que parfois on est un petit peu dans une situation de précarité et c'est pas évident d'investir financièrement, on doit pouvoir trouver des plateformes de bruitage de son sur Internet. Donc, à partir du moment où on a l'accès à Internet, on peut effectivement réutiliser. J'aime bien cette idée d'avoir le son d'une vitre, d'un verre cassé ou, je ne sais pas, d'un klaxon ou d'un roulement de tambour à un certain moment.
Il y a une application gratuite qui marche très, très bien aussi. Ça s'appelle en anglais 100 Buttons and Sounds. Une centaine de boutons et de sons. Donc, c'est gratuit. Moi, je l'utilise, mais avec des enceintes parce que ça permet de bien l'entendre. Et on a plus d'une centaine de bruits très variés qu'on peut combiner et qu'on peut faire durer. On peut faire varier le volume, la hauteur, la fréquence, plein de paramètres. Et ça peut être très, très sympa, autant au quotidien que, par exemple, pour une activité de raconter une histoire en mettant les bruitages. Et il y a plein d'explotations possibles à partir d'applications comme ça. Celle-là, c'est l'une de celles que je préfère parce qu'elle est très, très variée. Mais il suffit de mettre son dans des applications. On trouvera différents types d'applications qui font à peu près la même chose.
Oui. C'est ça, je viens de voir, hein, je viens de l'ajouter, on pourra l'ajouter parmi les liens, parce que je me disais, je pourrais la mettre en pratique dès lundi prochain. Moi, je fais parfois des sons, mais ils sont pas toujours réussis quand je les transforme.
Et là, par exemple, je ne sais pas à quel moment va paraître le podcast, mais Halloween approche. Et il y a plein de bruits, de sorcières, de... Comment ça s'appelle déjà, la sorcière qui tourne son chaudron, et donc il y a le chaudron qui boue, et il y a le bruit des chauves-souris, et il y a des pas lourds de Frankenstein, etc. Donc on peut faire écouter, faire décrire, et ensuite faire mettre en scène une scène d'horreur, par exemple, ou bien, juste pour vous donner une idée comme ça qui me vient dans la discussion, et un jeu de rôle qui fonctionne très bien et qui est très marrant, c'est un couple qui dort, donc il y a deux apprenants qui sont assis côte à côte sur leurs deux chaises, et donc ils improvisent en fonction des bruits qu'ils entendent. Donc il y a les autres qui peuvent appuyer sur les boutons de l'application, et donc ils dorment, et on entend tout d'un coup les pas lourds de quelqu'un qui arrive, donc il y a l'un des deux qui se réveille, qu'il y a l'autre, t'as entendu, etc. Et puis on entend la porte grincer, et puis on entend un rire lointain de sorcière, et puis et il faut qu'ils réagissent, qu'ils commentent, et qu'ils fassent semblant d'être dans une maison, ils entendent tous ces bruits-là, et ça peut donner lieu à des scénettes vraiment très drôles.
Oui, à ce niveau-là, ça, c'est une très bonne idée, là, avec l'approche d'Halloween, et d'ailleurs pour les podcasts. Donc, alors, ce n'est pas quand on s'était rencontrés, mais quand vous vous étiez rencontrés la dernière fois, donc avec Sébastien. Eda, tu avais parlé de matrice, tu avais parlé aussi du jeu La Révérence. Alors, tu viens de nous parler de très nombreux jeux pour nous donner des idées extrêmement concrètes. Est-ce que tu as encore d'autres matrices à partager avec nos auditeurs, avec nous aujourd'hui?
Oui, merci de parler de matrice parce que c'est une idée qui me semble essentielle. Le fait que justement, il s'agit moins d'utiliser un jeu bien particulier que de comprendre comment ça marche et de le prendre comme matrice, comme modèle à partir duquel on va pouvoir générer plein d'autres jeux. Donc plus que d'apprendre un jeu, il s'agit de trouver des canevas de jeux qui fonctionnent et de pouvoir les adapter petit à petit. Donc effectivement, on avait parlé du jeu de la révérence que je vais très rapidement expliquer. C'est un jeu qui fonctionne très très bien et qui n'exige pas de matériel ni de préparation du tout. Il faut juste savoir ce qu'on va faire. C'est un jeu qui consiste à placer les apprenants en rang. Ça peut être 2 à 6 rangs de joueurs. Et donc, on donne une consigne et le premier de ceux qui sont devant qui trouve la bonne réponse à la consigne remporte le point et les 5 autres, on va dire 5, lui font une révérence. Il y a ce côté un peu rituel, un peu mise en scène de on fait une grande révérence et tout le monde va à la queue. Donc la consigne, ça peut être trouver le contraire de tel ou tel mot, trouver le féminin, conjuguer un verbe, compléter une amorce pour formuler une hypothèse, traduire un mot, etc. Donc ça peut servir vraiment à plein de d'éléments, pas seulement linguistiques d'ailleurs, je peux donner aussi l'exemple culturel. Je donne un élément mexicain, le taco, et le premier qui trouve l'équivalent en français remporte le point. Et quelqu'un me dit la crêpe, mais il faut qu'il justifie sa réponse. Donc oui, la crêpe c'est comme le taco parce que les deux sont des galettes ou dans les deux on peut mettre quelque chose pour manger, etc. Donc ça peut servir à plein d'objectifs. Et je l'utilise très régulièrement. Mais il y a plein d'autres matrices qui fonctionnent très bien, j'en ai déjà cité quelques-unes, et j'aime beaucoup celle que j'appelle 1, 2, 3, mais qui en fait existe sous d'autres formes. Il y a par exemple un jeu qui s'appelle Séquence, un jeu de société. Il y a un corpus de cartes étalé sur la table, et il y a l'autre corpus est identique, mais dans la pioche. Donc il faut retourner une carte de la pioche, retrouver la carte équivalente sur le corpus qui est visible sur la table, et on peut poser son pion sur cette carte si on apporte la bonne réponse à la question ou si on fait ce qui est dit dans la consigne, etc. Donc par exemple, si on est en train de travailler les verbes au futur, on retourne un verbe, et si on donne une phrase où ce verbe-là est conjugué au futur, on a le droit de poser son pion. Mais je l'utilise aussi, par exemple, pour explorer les représentations et les pratiques d'écriture. Il y a une série de 20 questions sur l'écriture. Quand est-ce que j'écris, à qui j'écris, quel type de texte j'écris, etc. Et donc, on répond à la question, et une fois qu'on a répondu à la question, on pose son pion sur la case correspondante. Et le premier joueur ou la première équipe qui réussit à aligner un certain nombre de pions, ça peut être 3, ça peut être 5, ça dépend de combien on veut faire durer la partie, a gagné. Et du coup, par exemple, quand je fais l'exploration des pratiques et représentations de l'écriture, ce qui est important, c'est moins la question de gagner ou pas gagner, c'est le fait de pendant une vingtaine de minutes, faire parler entre eux les apprenants et qu'ils découvrent la diversité des pratiques et des représentations qui existent. Mais il y a plein de jeux assez sophistiqués sur le marché, mais qui peuvent être très rapidement adaptés. Je pense ici à un jeu dont j'ignore le nom en français. En anglais, il s'appelle Tapple. C'est un jeu de société avec un dispositif qui est composé de lettres. Il faut appuyer sur une lettre à chaque fois qu'on a trouvé un mot qui appartient à une certaine catégorie. Donc on a par exemple parfum de glace et on a toutes les lettres de l'alphabet. Et si je dis chocolat, j'enfonce la lettre C et l'autre a 10 secondes pour proposer une autre lettre. Donc il va enfoncer le V de vanille. Et petit à petit, il n'y a plus autant de lettres à utiliser. Et le premier qui en 10 secondes n'arrive pas à trouver père. Ça, on peut très rapidement l'adapter. Les catégories, on prend les catégories qu'on veut. Ça peut être monument francophone, personnage historique, verbe qu'utilise tel auxiliaire. On peut imaginer les catégories qu'on veut. Et au lieu d'avoir le dispositif qui est très sympa, c'est vrai qu'il y a un côté agréable à faire tourner la roue et tout, mais on peut avoir des cartes avec des lettres qu'on a fabriquées ou on a fait fabriquer. Et chaque fois qu'un élève trouve un mot, il prend la carte Et il y a de moins en moins de cartes sur la table, et à la fin gagne celui qui a eu le plus de cartes, par exemple. Et du coup, donc, ce n'est pas parce que table, quand on va dans un magasin, ça coûte 20 € et qu'on n'a pas 20 € à mettre là-dessus, qu'on peut pas jouer à ça. On peut observer comment ça se passe et penser à quelle catégorie on aimerait utiliser et fabriquer des supports simples et pas chers et qui peuvent être aussi très sympathiques. Et dernière idée très rapide pour montrer que vraiment on n'a pas besoin de choses très compliquées. Tout le monde connaît le jeu de domino. J'ai joué au domino en classe sans domino. Je désigne, ou le hasard désigne un premier joueur qui se met au centre de la salle, et je leur dis, vous connaissez tous le jeu de domino, il va falloir se mettre debout pour se mettre derrière ou à côté d'un de vos camarades en trouvant un point de similitude entre lui et vous. Donc je me mets derrière toi parce que j'ai des chaussures noires comme toi. Et donc le suivant, il peut se mettre devant ou derrière l'un des deux en disant « je me mets devant toi parce que j'ai les cheveux longs comme toi », etc. Et donc on travaille la description physique et on n'a pas de matériel, ça prend 5 minutes, ce n'est pas très compliqué, mais c'est juste l'idée que comme dans le domino, il faut qu'il ait 2 points en commun pour pouvoir prendre la place correspondante. Et le dernier à arriver à se placer peut avoir un gage qui pourra être de répéter 5 fois sans se tromper piano panier, ou qui pourra être un gage que j'aime bien appliquer, c'est s'arracher un cheveu et faire un nœud à ce cheveu. C'est quelque chose qui en même temps a un caractère symbolique fort, s'arracher une partie du corps, mais qui ne représente pas vraiment quelque chose de très compliqué. Enfin, il y a plein de manières dont on peut organiser les gages.
Ça dépend si tes apprenants ont des cheveux ou pas.
Voilà, et effectivement, parce que, et en général, j'annonce les gages après, parce qu'effectivement, si c'est quelqu'un qui a très peu de cheveux ou qui sont très courts, c'est plus difficile. Mais il y a plein de gages possibles. Il faut rester les mains en l'air pendant 10 secondes ou sauter sur un pied. Mais évidemment, si je vois que mon apprenant, il n'est pas en mesure de sauter sur un pied pendant 10 secondes, c'est pour ça qu'en général, j'annonce pas les gages en avance. J'ai plusieurs gages. D'ailleurs, sur mon site, il y a la liste de gages à télécharger gratuitement. Il y a 100 de gages. Je crois qu'ils sont même 200. Et chacun choisira en fonction de son public ceux qui lui conviennent vraiment. Et du coup, ce que je fais souvent, c'est que je tire 3 gages et je fais choisir au perdant lequel des 3 il veut faire. Du coup, c'est un peu moins...
Ouais. Non, ça fait un peu pas de bras, pas de chocolat, quoi.
Voilà.
Merci beaucoup Aïdé pour toutes ces matrices. Alors petite annonce, hein. On prépare avec Fred justement un jeu qu'on publiera sur Agito en utilisant ta matrice, et ça ce sera dit dans les règles aussi, ta matrice du jeu de la révérence. Donc
super.
On va publier un jeu bientôt et puis un deuxième après pour des débutants. Donc grâce à tes conseils, et puis tu pourras nous faire un retour, savoir si on a bien fait ça ou pas.
D'accord.
On va passer à la rubrique pour aller plus loin.
Donc, comme tu le disais, Seb, c'est le moment de notre rubrique pour aller plus loin. Et Aïdé, tu avais justement des liens dont tu voulais nous parler, que tu avais mentionné en tout début d'émission.
Oui, et d'ailleurs, je voudrais dire, vous allez le mettre dans les liens, il y a le blog Le Jeu en classe de langue. J'y cite aussi bien des travaux personnels que des ressources que je trouve par-ci, par-là, des ressources diverses. Je voudrais juste signaler certaines ressources qui me tiennent davantage à cœur. Et j'invite tous les lecteurs du blog à chercher spécifiquement le site de théâtralisation de contes et légendes québécois. C'est un projet qu'on a mis en place pour travailler justement sur le théâtre, mais aussi les contes et les légendes et la francophonie. Et dans ce projet, j'ai créé 20 de fiches de jeux qui peuvent servir soit dans un projet plus vaste en classe, soit de manière ponctuelle. Donc je les invite particulièrement à découvrir ça. Il y a aussi par exemple une sélection d'applications. On n'a pas beaucoup parlé de technologie, mais c'est aussi un sujet qui inquiète beaucoup les enseignants en ce moment. Il y a plein d'applications ludo-linguistiques qui peuvent être exploitées en classe, et on a par exemple une entrée sur le blog aussi sur une sélection qu'il faudrait peut-être bientôt remettre à jour d'applications disponibles sur Android et iPad qui permettent de jouer en classe. Et je citerai aussi, j'invite tous les auditeurs à consulter la page, ma page sur academia.edu, donc vous allez le mettre sûrement dans les liens. pour tous ceux qui n'ont pas accès aux livres facilement et qui n'ont pas accès à une bibliothèque, ils peuvent consulter un grand nombre des articles que j'ai écrits sur différents sujets touchant aux jeux en classe de langue sur academia.edu. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller en médiathèque d'Institut français, d'Alliance française ou d'une institution qui est abonnée aux Français dans le monde, je rappelle aussi que tous les deux mois, je publie dans le Français dans le monde des fiches jeux. En ce moment, c'est pour les niveaux A1 à B2, des fiches qui peuvent être directement réutilisées en classe et qui peuvent donner à d'autres idées d'application. Je termine en disant que très bientôt, vous aurez quelques surprises. On est en train de travailler sur un projet sur l'art, où il y aura plein de jeux sur l'art en classe de langue, et on voudrait aussi monter un projet de jeu de société. J'espère que je pourrai vous en reparler très bientôt.
Avec plaisir.
Dans le français dans le monde ou ailleurs ?
Ailleurs, pour l'instant, on est en train d'explorer avec la coopération culturelle ici au Mexique ce qu'on pourrait mettre en place. Mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et je pense que ça pourrait être très intéressant pour l'ensemble des professeurs qui écoutent Agiton.
Super.
Ouais. Surtout ces projets. Donc du coup, est-ce que vous êtes aussi à la recherche de participants éventuels ou l'équipe est déjà constituée?
L'équipe pour l'instant est déjà constituée, mais de temps en temps je lance aussi sur le blog des invitations à participer à différentes choses. Si on avait le temps, je vous parlerai aussi. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'apprentissage en situation informelle, à comment les apprenants de langue sont en train d'utiliser le jeu en dehors des classes pour poursuivre leur apprentissage. Et là, en décembre 2006, il y a un article qui va paraître avec le résultat d'une enquête que nous avons faite auprès de 300 apprenants de français à l'université. Et en fait, on découvre, par exemple, que même si on pense que les universitaires ne jouent pas beaucoup, il y a quand même un tiers sur 300 répondants, donc 100 répondants, qui ont dit que oui, ils jouaient en français pour améliorer leur français. Et ils nous parlent un peu de quels jeux ils utilisent. Et on voit que c'est souvent les jeux qu'ils ont découverts en classe. Donc nous, enseignants, tout semble indiquer qu'on a quand même un rôle important à jouer dans le développement de la culture ludique francophone.
J'ai une petite anecdote justement dans ce sens-là. Alors, les anecdotes de tonton Seb. Hein. quand je travaillais chez Roulante, c'était des séjours linguistiques pour jeunes ados néerlandophones, on avait joué pendant une soirée au Loup-garou de Tiercelieu.
Oui.
Très connu. Hein. Et en fait, le séjour de ces ados doit se faire en immersion, donc ils peuvent utiliser uniquement le français pendant 12 jours. Et on les avait surpris en réunion dans une chambre, donc ils ont normalement on n'a pas trop le droit, hein, on doit rester dans sa chambre pendant la nuit. Et on les avait surpris réunis dans une chambre en train de jouer au Loup-garou de Tiercelieu en français. Donc tu vois, c'est
ça marche très 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 bien. Hein, auprès des...
Ça marche super bien. Ouais.
Ouais.
C'est vraiment. Alors, ils ont été punis ?
Ouais, j'étais obligé quand même. Enfin, je les ai pas punis, mais j'ai été obligé d'arrêter la partie, quoi. Mais je me serais bien joint à eux. Mais bon, j'étais responsable. Et c'est pour des consignes de sécurité, etc. Ils ont pas le droit de se réunir pendant la nuit ailleurs que dans. Tu vois, c'est pas une pratique autorisée, quoi.
Ouais.
J'aurais plein d'anecdotes, Seb, à te raconter, mais j'en ai des similaires. Des gens qui apprennent rien, mais pas du tout le français, mais qui, en découvrant un jeu en français, se sont mis à vouloir mieux apprendre pour être sûr de pouvoir jouer et gagner.
Et gagner, oui. Oui, voilà.
Oui.
Et toi, Pascaline, tu as des ressources à partager avec nous ?
Oui, j'ai des ressources à partager avec vous, quelques-unes, puisque c'est vrai que sur la toile, on a des blogueurs qui se sont intéressés au jeu. Alors, il y en a qui se sont même spécialisés dans le jeu. Donc, parmi ces ressources, il y a Mondolingo. Alors, Mondolingo, c'est la suite de Bonjour Flo, que vous connaissiez sûrement déjà, et dans lequel Tiffany Montus propose toute une série de jeux d'activités en classe très, très diverses, très variées et diverses. Donc, elle s'inspire de différentes matrices, la matrice de la bataille navale, pour l'adapter notamment au travail de conjugaison. Au travail des verbes, elle reprend des plateaux de jeux de société pour travailler la conjugaison, pour travailler l'expression de l'opinion. Elle utilise les mémories aussi. Voilà, toute une série de jeux d'activités à adapter en fonction des objectifs pédagogiques qui sont vraiment très chouettes, avec une très très belle mise en forme aussi. Un très beau travail, ouais.
Alors de mon côté, bah, plusieurs blogs que je conseillerais aussi, mais avant tout bah, ton livre, hein, parce que je trouve que la lecture apporte beaucoup, à la fois en termes d'exemple, mais aussi pour essayer de théoriser, de mettre à plat un peu les façons dont on peut utiliser le jeu.
Merci.
De rien. Et sinon, j'aurais trois sites à recommander. Bien sûr, les experts qui font beaucoup de jeux en FLE, à la fois sur leur boutique et puis en version gratuite. Alors, ils ont deux choses. Ils font soit des adaptations jeux, soit des créations complètes de jeux. Et ça marche assez bien, les jeux qu'ils proposent. Notamment Maxime, hein, qui avait travaillé sur des jeux complètement développés pour le FLE. Il y a le site Époustoufleux aussi, qui est une bonne source d'inspiration, parce qu'elle propose pas mal de jeux de société réels qui peuvent être adaptés en FLE. Alors, il y avait des Crime Box, il y avait Double, il y avait plein de choses comme ça qu'on pouvait réutiliser. Et puis, de manière un peu plus traditionnelle, sur Tencentu, il y a Gildas, qui avait proposé 13 jeux à embarquer partout, donc des petits jeux faciles à mettre en place. Et puis Nathalie, qui avait fait 3 articles sur sa mallette de jeux à elle, celle qu'elle emmenait un peu partout, avec le matériel qu'il faut dedans. Alors elle est assez stratégique, puisqu'elle propose du matériel qui peut être utilisé un peu partout.
Il ne faudrait pas oublier d'inclure parmi les liens à suivre le projet On Joue, coordonné entre autres par Anne-Marie Polo, P-A-U-L-E-A-U. Et c'est un projet porté par l'Association de didactique du français langue étrangère et la Fédération internationale de professeurs de français. Et cela consiste justement à partager des expériences concrètes de jeux en classe. Il y a des choses très intéressantes parce qu'il y a des pays très différents avec des publics très différents qui ont participé et qui ont envoyé des descriptions des jeux qu'ils utilisent, qu'ils aiment, etc.
Bah ouais, super. Moi, je connaissais pas, donc je vais aller regarder ça.
Est-ce que vous avez envisagé de mettre aussi Trick Track?
Trick Track.
Ah, le jeu. Ouais, alors ça c'est super. Moi, je suis un gros fan de Trick Track, mais c'est un site sur les jeux vidéo,
C'est un site consacré aux jeux vidéo, aux jeux de société en général. Mais ce qui est intéressant, c'est que très souvent, ils ont une vidéo où ils discutent avec le créateur du jeu et ils mettent en scène une partie. Donc, pour les profs qui sont à la recherche de jeux, c'est super pratique parce que ça permet de bien comprendre comment ça marche avant même de l'acheter, comprendre comment ça marche, voir une partie, imaginer des applications.
Ouais,
Trick Track. Moi, je connaissais pas.
À ne pas manquer, ouais, un super site. Moi, j'adore.
Est-ce que vous avez mis le répertoire de jeux en langue vivante de Vincent Beckmann?
Non.
Ça c'est bien aussi.
D'accord.
De jeux en langue vivante.
D'accord, le répertoire de jeux en langue vivante.
C'est l'Académie de Nantes qui a un projet. Il y a déjà, je pense, une vingtaine, une trentaine de jeux qui sont décrits sous l'axe de leur exploitation en classe de langue. Et ils vont rajouter au fur et à mesure de nouvelles références. Donc c'est un répertoire très intéressant.
Oui, oui, ils sont assez actifs à l'Académie de Nantes. Ils ont sorti plusieurs ressources. On en parlait dans les derniers Agitox, justement des ressources pour les classes de langue, donc pas seulement pour le FLE, mais qui peuvent
inspirer. De toute façon, on oublie sûrement des références, hein, sur le CIEP aussi. Il y a plein de choses.
Il y a une comment ils appellent ça déjà, mais ils ont fait une bibliographie sélective sur le jeu au CIEP.
Bah ouais, et c'est l'occasion aussi aux auditeurs de partager un peu leurs ressources dans les commentaires de l'émission, hein. Ça, on peut continuer la discussion sans problème.
Oui, tout à fait. Bon, eh bien, c'était quand même assez complet avec des exemples très très concrets qui permettent de se mettre d'emblée à la recherche d'activités pour les prochains cours. On a pu quand même déjà se constituer un petit sac à malice. Et donc c'est terminé pour ce numéro 7 des Agités du FLE. Merci à Aïdé d'être venue parmi nous et Seb d'avoir organisé ce podcast. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'émission et sur le site Agito. Et comme le disait Seb, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. Enfin, c'est pas ce que tu disais, Seb, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Facebook, Twitter, Google+, sur PodCloud. Et puis, surtout, la discussion se poursuit dans les commentaires. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange où on peut enrichir cette... cette bibliographie, voilà, faire part de ces trouvailles, faire part de ce qu'on connaît pour pouvoir enrichir nos savoir-faire, tout simplement. Et donc, on vous dit tous les trois à bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, bon cours.
Et bon jeu.
Et bon jeu, oui. Et bon jeu.